suis Pierre Lauré, directeur d'études à l'École pratique des hautes études à la section des sciences religieuses. Je suis spécialisé dans la mystique musulmane et dans l'étude des aspects ésotériques de l'islam. J'ai travaillé sur les rêves, la science symbolique des lettres en islam et un peu sur la magie islamique également. La question que je m'étais posée et pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est au fond quel est le rôle de l'être humain dans la création et qu'est-ce qui fait que l'être humain est spécifiquement humain. Dès le début du Coran, il est signalé que Dieu crée Adam, il crée l'homme, il demande aux anges de se prosterner devant lui. Donc l'homme est vraiment le sommet de la création. Mais qu'est-ce qui justifie qu'il soit le sommet de la création alors qu'on voit que peu après sa création, Adam transgresse, il commet un péché et que l'humanité est une communauté de gens pécheurs, transgresseurs, où on voit mal la supériorité, notamment par rapport à d'autres règnes comme les animaux ou a fortiori comme les anges. Pour documenter la réponse à la question de savoir qu'est-ce que l'être humain, quelle est sa fonction sur Terre, j'ai consulté principalement le Coran et les commentaires du Coran, commentaires qu'on appelle traditionnels, c'est-à-dire qui se fondent sur le hadith, sur les paroles du prophète, et aussi commentaires théologiques qui se fondent sur des spéculations d'ordre plus rationnel, et également des commentaires mystiques, c'est-à-dire qui expriment une méditation plus spirituelle sur le devenir, disons, de l'être humain dans son rapport direct avec Dieu. Et j'ai également consulté des textes de la culture commune musulmane de l'époque qu'on appelle adab, c'est-à-dire des textes de manière profane, mais qui incluent également une réflexion sur la destinée religieuse de l'homme, et notamment celle du grand prosateur Al-Jahd, qui est l'auteur d'un livre des animaux, et l'encyclopédie des frères sincères. Le Coran définit l'homme comme khalifa, c'est-à-dire comme lieutenant de Dieu sur la terre, comme délégué de Dieu sur la terre. Alors c'est une affirmation très, très forte, très grave, mais que représente-t-elle? Les différents courants exégétiques donnent des réponses différentes. Il y a certains qui affirment qu'au fond, l'homme est délégué de Dieu sur la terre dans la mesure où il accomplit sa volonté en appliquant les règles du droit, simplement du droit musulman, de prière, de jeûne, etc. Ce qui est très répandu comme réponse et en même temps un peu court. D'autres disent plus philosophique, affirment mais c'est parce que l'homme exerce sa raison et il peut ainsi être véritablement le représentant de Dieu lucide sur la terre. Et les mystiques enfin ont une visée large et cosmique en disant mais l'homme est l'être capable de sainteté, il peut être le saint de Dieu sur la terre, le miroir de Dieu sur la terre. Alors, contrairement à ce qu'on croit communément, le Coran souligne que les animaux sont des êtres qui ne sont pas dépourvus d'intelligence, au contraire, ce sont des êtres tout à fait conscients. Ils prient Dieu, ils lui adressent une louange, donc ils ont un langage, et Dieu comprend leur louange, Dieu comprend leur langage. Et certains passages du Coran vont même plus loin, puisqu'ils affirment que les animaux sont responsables d'une certaine manière des actes qu'ils posent ou qu'ils ne posent pas, ce qui laisse à penser que ce sont des communautés qui, comme les humains en quelque sorte, sont soumises à Dieu et donc peuvent être comparées à juste titre avec les humains. Alors le Coran, les commentaires du Coran et le droit musulman qui en a été dérivé sont très clairs sur le fait que les animaux sont au service de l'être humain, de son confort, et que les hommes ont le droit de prélever leur nourriture sur les animaux, ou leurs vêtements, ou bien leur service, de domestiquer les animaux. Mais il est aussi souligné que l'homme doit respecter les animaux, ne doit pas leur faire de mal, ne doit pas les maltraiter, ni les tuer sans raison, et que la maltraitance envers les animaux sera punie au jour du jugement, de la même façon que la bienfaisance envers les animaux sera récompensée. Donc la solidarité entre les humains d'un côté et les animaux de l'autre est clairement annoncée. Le Coran donne l'exemple particulier des abeilles dans la sourate 16, précisément la sourate des abeilles. Les abeilles ont reçu une révélation de Dieu et elles savent ce qu'elles doivent faire sur ordre de Dieu et elles accomplissent une sorte de communauté que les exégètes ont montré comme étant une communauté parfaite. Les abeilles obéissent à leur souverain et elles forment une entité de laquelle on peut prendre exemple, de laquelle les croyants peuvent prendre exemple parce que les abeilles sont pures, ne mangent que ce qui est pur, produisent quelque chose qui est pur au service des humains. Alors, la tradition musulmane, fondée principalement sur le hadith, signale la présence de certains animaux considérés comme impurs, comme néfastes. L'exemple le plus célèbre est celui des chiens, dont le prophète se méfiait à telle enseigne qu'il a, selon le hadith, il a même dit « si les chiens n'étaient pas une umma, une communauté, j'aurais ordonné de les tuer ». Cette méfiance par rapport aux chiens peut s'expliquer par le fait qu'à cette époque-là, donc en Arabie, on considérait que certains animaux avaient partie liée avec le monde des démons, le monde des djinns, un monde invisible qui pouvait être dangereux pour les humains, pour leur santé, et que donc il fallait éviter de fréquenter tel ou tel animal, comme par exemple le chien. La culture musulmane médiévale, à travers l'adab, a pas mal parlé du règne animal. À l'époque, les musulmans vivaient dans une société où l'animal était très présent, partout, même dans les villes. Et donc, il a été question des animaux, notamment dans l'œuvre du grand prosateur Al-Jahed, qui décrit avec émerveillement l'intelligence que Dieu a mis chez les animaux, leur sensibilité. Enfin, c'est un livre tout à fait étonnant. Et à noter aussi l'encyclopédie du Frère Sincère au Xe siècle, qui consacre un chapitre entier à un débat entre les animaux et les humains, c'est-à-dire que les animaux ont la parole et les atteintes ont un procès contre les humains, en demandant aux humains, mais de quel droit est-ce que vous venez nous tuer, manger notre chair, prendre notre peau, nous domestiquer, qu'est-ce qui justifie cela? Et les hommes essayent de dire, mais nous sommes supérieurs à vous parce que nous sommes plus intelligents, plus beaux, plus civilisés, mieux organisés. Et à chaque fois, les animaux démontent chaque argument des humains en expliquant que le règne animal propose au fond quelque chose de mieux, de plus parfait. Alors les humains sont acculés, et au dernier moment, disons, de la plaidoirie, finalement, ils trouvent l'argument. Ce qui fait la supériorité de l'être humain, en définitive, c'est qu'il est seul à être capable de sainteté. La littérature soufie exprime la proximité entre la vie mystique et la vie animale, parce que les animaux, comme on l'a vu, sont spontanément orientés vers la louange de Dieu et vers la piété. Et les récits des grands mystiques sont pleins d'histoires, de la proximité des maîtres avec des bêtes féroces ou non féroces d'ailleurs. Le grand penseur doctrinaire de la mystique, Ibn Arabi, qui est 12e, 13e siècle, est le principal à avoir pensé le rapport entre règne animal et êtres humains. Les animaux, selon lui, non seulement ont un langage, non seulement ont une piété, non seulement ont une obéissance à la loi religieuse qui leur a été imposée, mais ils ont un rapport direct à Dieu. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas, parce qu'ils sont tellement perplexes face à la grandeur divine qu'ils ne peuvent même plus l'exprimer autrement que par leur situation d'animaux, alors que l'homme est plus distant de Dieu. Il doit réfléchir, il a reçu la raison pour ça, et son rapport à Dieu est beaucoup plus indirect, beaucoup plus lent et beaucoup plus compliqué. Le Coran et le Hadith définissent les anges comme des êtres célestes, donc proches de Dieu, intermédiaires entre Dieu et le monde terrestre. Ils ont un corps subtil, un corps de lumière en fait, et une partie d'entre eux passent leur temps à louer Dieu, mais une autre partie intervient dans la création, et notamment intervient pour surveiller, guider, aider les hommes. En fait, il existe différentes catégories d'anges. Il y a les très grands anges cités par la tradition et qui ont un nom comme Gabriel, Michael, et qui sont très proches de Dieu et qui apporte le message au prophète. Donc mais il y a aussi des anges qui ont la charge du tout venant des croyants et qui s'occupent de surveiller toutes leurs actions, leurs bonnes actions, leurs mauvaises, à chaque instant, de jour comme de nuit. Ils l'inscrivent sur des registres et chaque semaine, les registres sont renvoyés dans les cieux. Et de toutes ces actions, il sera tenu compte au jour de la résurrection. Ces anges sont présents en permanence, et même si un homme se trouve dans le désert, ces anges sont avec lui, et ça explique que même si un musulman prie tout seul dans un endroit désert, il terminera sa prière en disant, en se tournant à droite et à gauche, le salut soit sur vous, parce que les anges sont présents auprès de lui. Donc les musulmans vivent dans une ambiance qui en fait est profondément imprégnée de présence angélique. Alors en conclusion de tout ce qui a été dit, on peut dire qu'au fond, même si toutes les créatures se trouvent à égalité devant Dieu, qui est le seul qui est vraiment et toute créature est faible et évanescente, mais néanmoins, l'homme a une fonction particulière. En effet, toutes les créatures, même les plus nobles, restent dans leur propre niveau d'existence, c'est-à-dire qu'un ange peut être l'ange le plus élevé, il va rester ange durant toute sa longue existence, de la même manière qu'un animal pourra être un animal parfait dans son espèce, mais il restera dans ce niveau-là d'animal. L'homme, par contre, est appelé à évoluer, c'est-à-dire qu'il est invité à suivre une trajectoire morale qui peut le mener soit à une proximité très étroite à Dieu, il peut atteindre le niveau spirituel des anges, mais il peut aussi, par sa transgression, faire le choix de déchoir et de devenir pire qu'un démon. Et c'est cette capacité, en quelque sorte, de prendre une direction ou une autre qui fait la véritable spécificité de l'être humain dans toute la création.